RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, la semaine est passée très vite. Voici le 18-19 régional, Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce vendredi. Effectivement, lorsqu'il fait beau, la semaine passe toujours vite. Lorsqu'il y a des jours fériés, on a presque l'impression d'être en vacances. Mais on est bien là pour vous accompagner ce vendredi soir, ça fait plaisir. Il y aura les fidèles du vendredi, notamment Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui posera son regard sur l'actualité dans notre diocèse avec pas mal de petites choses à nous dire, il faut bien se l'avouer. Jacques Cohen également nous proposera sa traditionnelle chronique d'actualité. Il reviendra sur les récents incidents de Boeing, malchance ou chance ? Réponse dans quelques secondes. Un maire qui nous parle, Patrice Morel et l'édile de Courlandon dans la Marne. On le retrouvera juste avant le journal régional où l'on fera un focus très particulier sur les fêtes médiévales de Sedan. C'est ce week-end, samedi et dimanche. Ça commence déjà à s'animer dans les rues de la ville ardennaise. Olivier Dufour nous parlera du 110e anniversaire de la première bataille de la Marne. Olivier Dufour, c'est le maire de Mondement. Et puis, on sera également avec les jeunes pèlerins de Châlons qui sont partis à Lourdes. C'était du 22 au 27 avril dernier. Ils étaient parmi plus de 300 pèlerins, un focus tout particulier qu'ils méritaient bien. Voilà pour le programme de ce vendredi où l'on commence, comme tous les vendredis dans le magazine régional, par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen en ligne avec nous. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Et on s'éloigne un petit peu de la médecine cette semaine et on va parler aviation et notamment des Boeing après plusieurs incidents. Heureusement, sans drame. Malgré tout, ces incidents inquiètent. Il est temps de prendre des mesures fortes, peut-être des mesures sévères chez Boeing, Jacques Cohen.
Eh bien, on peut voir cette série d'incidents. Je ne parle pas des deux catastrophes du 737 MAX qui a conduit à le clouer au sol pendant un bout de temps avant de reprendre les choses. Je parle d'un incident récent. Et là, la succession d'incidents peut être vue soit comme une malchance, ou au contraire comme une chance, parce qu'ils n'ont pas prêté à conséquence au sens où il n'y a pas eu de catastrophe, mais ça permet de rappeler qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système de production de Boeing. Ayant eu du retard avec les incidents et l'arrêt de la chaîne des 737 MAX pendant un bout de temps, Boeing a mis les bouchées doubles pour produire le plus de machines possibles de ce type, le 737, qui est un des plus courants. Et on a eu comme exemple le plus emblématique l'oubli de vis pour une porte amovible extérieure, un panneau d'évacuation, qui a sauté à la mise à pressurisation avec une chance considérable. Parce que un peu moins de 2 minutes plus tard, vu la pente de montée, le départ de la porte aurait fait exploser la machine, parce qu'il y aurait eu un gradient avec l'extérieur beaucoup plus important. Moins de 2 minutes de la catastrophe, c'est quand même pas beaucoup. D'autres incidents du même genre, on ne va pas les détailler, allant aussi sur des incidents de maintenance, comme ce moteur qui a perdu des panneaux de carénage. C'est pas à l'usine, mais ça se passe plus tard dans l'entretien. Et globalement, on peut voir qu'il y a aussi quelques incidents sur des modèles beaucoup plus récents, comme le 757 et le 777, inquiétude sur la fiabilité de certaines solutions retenues. Globalement, c'est un peu un exemple typique. Boeing a été pris en main depuis une dizaine d'années par des financiers, et l'art pour l'art ou les inquiétudes des ingénieurs sont passées derrière les préoccupations de rentabilité. Pour ces préoccupations de rentabilité, on a surtout joué sur l'externalisation de la production et le fait de faire des chaînes chez des pseudo-sous-traitants d'ailleurs, qui permettent de tourner et fabriquer le plus vite possible et de contourner la réglementation. Parce que normalement, la fabrication aéronautique est extrêmement précise et codifiée. Boeing a eu le problème de confier ces choses à des personnels très peu qualifiés en leur donnant des cases à cocher pour dire « t'as vissé ça, tu coches, t'as vissé ça, tu coches, tu débrandes ça, tu coches, etc. » avec des systèmes informatisés pour les alarmes, des choses qui ont été plus ou moins bien faites, mais finalement, les gens ont fini par découvrir qu'il y avait un bouton sur l'écran qui permettait de court-circuiter quand la machine disait qu'on avait oublié quelque chose, et bousculé par le temps, on a eu plusieurs dizaines d'incidents qui ont été trouvés par les enquêtes. Alors, l'instance de contrôle de régulation, US, qui est l'autorité aéronautique FAA, avait aussi pris une très mauvaise habitude qui est de déléguer aux fabricants un certain nombre de contrôles. Le fabricant se contrôlait lui-même. Alors on a vu que ce n'est pas une très bonne idée parce que ça finit par le savoir à quoi on a insisté. On finit toujours par être un peu plus complaisant avec soi-même que quand on a quelqu'un sur le dos. Et ce qui est plus ennuyeux, c'est que des éléments de conception sur d'autres modèles plus récents que le 737 sont également mis en cause, n'ayant pas donné de catastrophe, bien sûr, mais demandant une revue pour vérifier si ce sont bien des solutions raisonnables à moyen terme. En effet, le 737, c'est finalement le problème de comment faire durer le plus longtemps possible un très vieil avion, en mettant des rustines, en modifiant des petites choses, alors que c'est un appareil qui, globalement, date des années 60, et si j'ose dire, accuse son âge. Et le moderniser à chaque fois, ça a des tas d'avantages, c'est moins cher que d'en faire un neuf. Et puis au point de vue formation des pilotes et donc argument de vente, ils ne changent pas de système, tout ça se passe très bien, toutes les choses nouvelles sont cachées sous le capot, et les pilotes n'ont même pas besoin de le savoir, sauf que le jour où l'un des systèmes auxiliaires rajoutés ne marche pas, eh bien ils n'ont aucune chance de s'en sortir, c'est ce qui est arrivé aux deux équipages du 737 MAX. La FAA aussi, elle a fini par se dire qu'elle risquait d'avoir de grosses misères, surtout dans un système aussi procédurier qu'aux États-Unis, qui a aussi un avantage, c'est que les responsabilités des dirigeants sont majeures. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans la situation de la catastrophe de Brétigny, où le patron de la SNCF a pu aller aux audiences pour expliquer qu'il était très désolé et qu'il pleurait beaucoup et que c'est quasiment lui à qui on a offert des mouchoirs. Mais dans un système de jour aux États-Unis, il aurait été en taule pour commencer. Et c'est l'inquiétude qu'ont tous ces responsables de Boeing qui a démissionné pour la fin de l'année et de l'organisme de régulation qui se rend compte que si de proche en proche des gens sont mis en examen, parce que les procédures criminelles aux États-Unis en matière de fabrication sont très rares, mais là on est dans ce genre de situation. Ça peut très très mal tourner à titre personnel pour un certain nombre de responsables. Alors c'est une situation qui est une société américaine et non pas chez nous, mais sur laquelle on peut réfléchir. Quand les gens risquent de payer cher pour le fait d'avoir fermé les yeux sur ce que faisaient leurs subordonnés, bien c'est peut-être pas le plus mauvais des systèmes.
Alors effectivement, professeur Jacques Cohen, on voit qu'il y a des choses à corriger chez Boeing et qu'a priori, de toute façon, les dirigeants vont devoir prendre les choses en main pour éviter ce genre de catastrophe sous peine d'avoir de lourdes sanctions. On se dit aussi que la peur n'évite pas le danger, mais lorsque l'on est passager, voyageur à travers un Boeing, comment on peut être sûr qu'il ne nous arrivera rien? Est-ce qu'on a des gages de qualité que l'on peut observer selon des modèles, selon certaines indications?
Non, aucun modèle de Boeing n'a un taux d'échec, d'incident et de risque obligeant de le clouer au sol, sinon ça serait fait. Simplement, il y a à resserrer les boulons sur des modèles qui vont sortir des chaînes, parce que les incidents se multipliaient et il faut donc reprendre tout ce qui a été sorti depuis 2 ans à peu près, depuis la reprise de la chaîne des 737, et puis éviter que ça se reproduise en serrant les boulons, c'est le cas de le dire, sur la chaîne dans sa production actuelle. Donc il n'y a pas à considérer qu'il ne faut pas prendre un avion plus que l'autre. Le taux d'accident de Boeing reste très bas, comparé à ce qui était il y a 20 ou 30 ans, non plus que ça, il y a une cinquantaine d'années pour les avions. Regardez l'affaire des comètes, on a attendu qu'il y en ait 2 ou 3 au tapis pour se dire qu'il y avait peut-être un problème. De nos jours, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus rare. Vous me direz qu'il y a 2737 qui sont allés au tapis, c'est vrai. Donc, vous n'avez pas à craindre de voler sur les avions de tel ou tel fabricant, surtout que vous n'avez plus tellement le choix, puisqu'il n'y en a plus que 2 principaux. À moins que vous vouliez essayer, mais vous aurez du mal à en trouver quelques avions exotiques, comme les avions russes qui ont des problèmes de développement avec la rupture des approvisionnements en éléments occidentaux qu'ils envisageraient de prendre, ou les avions chinois qui sont aussi au stade de développement où ils essuient un peu les plâtres, mais sans accident pour l'instant, ni chez l'un ni chez l'autre. Donc ne considérez pas que ces incidents soient rédhibitoires et qu'il faut éviter systématiquement de voler sur Boeing. De ce point de vue-là, c'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas forcément une malchance, mais une chance de permettre qu'après des incidents relativement mineurs, et donc à peu de frais, on puisse reprendre les règles d'une production et d'une surveillance de la production qui ne soit pas en sacrifiant la qualité au profit justement du profit maximum.
Eh bien merci professeur Jacques Cohen de nous avoir éclairé sur les constructeurs d'avions et plus précisément aujourd'hui sur Boeing. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'actualité. On vous dit à très bientôt et plus d'actualités sur votre blog jhmcohen.com évidemment.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Et c'est un maire qui nous parle. Désormais, à 18h20, Patrice Morel et l'édile de Courlandon dans la Marne. Il est au micro de Jean-Pierre.
Bonjour Patrice Morel.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez, Patrice Morel, nous présenter un peu votre commune, c'est-à-dire Courlandon, dans la région de Reims? Combien d'habitants à Courlandon, monsieur le maire?
Alors, à Courlandon, il y a à peu près 290 habitants, à peu près, ça fluctue toujours un petit peu. La commune de Courlandon, elle est située à 4 km de Fismes, juste avant Fismes.
Donc, pas très loin de Fismes, ça veut dire aussi que pour des gens qui habitent Courlandon, ils vont souvent faire leurs courses à Fismes, c'est tout près.
Oui, oui, Fismes n'est pas très loin, donc il y a les supermarchés à Fismes, ou à Jean-Charles.
Alors justement, monsieur le maire, Patrice Morel, vous êtes maire depuis combien de temps à Courlandon? Comment vous avez commencé comme conseiller municipal, comme adjoint? Comment ça s'est passé pour vous?
En fait, j'ai commencé comme... conseiller en 2000, quand je suis arrivé dans la commune. L'ancien maire, M. Mauvaisin, est venu me chercher. Puis après, j'ai été deuxième adjoint aux avant-dernières élections. Et maintenant, je suis maire depuis la dernière élection, en 2020.
Justement, il y a beaucoup qui disent que parmi les mandats électifs, le mandat de maire, c'est celui qui rapproche le plus. Vous êtes en contact, vous, avec les habitants, on vous demande des choses. Quels sont d'ailleurs ces habitants de Courlandon? C'est des agriculteurs, il y a peut-être des viticulteurs, il y a peut-être y a des retraités, il y a quelques jeunes qui s'installent. Comment ça se passe?
Alors, il y a un seul agriculteur dans la commune. Il n'y a pas d'entreprise dans la commune, donc c'est surtout des jeunes qui viennent s'installer. Puis bon, pareil, des retraités, des anciens habitants de Courlandon.
On pose souvent la question, monsieur le maire, à toutes les communes. On a le sentiment qu'avec le Covid, par exemple, il y a des personnes, des jeunes en particulier, qui disent « on veut s'installer un peu à la campagne, c'est un peu moins cher quand même. Et puis, bon, on est à l'air, on peut respirer, on n'est pas enfermé. » Est-ce que vous avez ressenti cette demande, monsieur le maire?
Pas trop, mais on a beaucoup de gens qui viennent pour essayer de s'installer justement à Courlandon. Mais Courlandon est un territoire très très petit, donc il y a très très peu de terrain à bâtir, à vendre. Il faut juste compter sur les ventes et les reventes, quoi.
Alors, on peut évoquer les communautés de communes aujourd'hui et puis le Grand Reims. Quand même, le maire reste un peu le patron quand même dans sa commune. Même s'il y a le Grand Reims, même si ça passe quand même par le maire.
Oui, bien sûr, le maire, il dirige toujours sa commune, mais bon, il a beaucoup de fonctions qui ont été reprises par le Grand Reims.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ou deux projets qui sont en cours ou qui se profilent pour les années qui viennent et qui sont actuellement sur la sellette à Courlandon?
Oui, on a une départementale qui traverse le village. Et donc, on doit refaire les trottoirs de cette route. Et puis après, on va continuer à aménager un peu tout ce qui est à côté, c'est-à-dire la salle des fêtes, un petit parc pour les enfants qu'on a commencé à aménager. Et puis surtout, fleurissement aussi.
Alors c'est vrai aussi que les personnes aujourd'hui, elles sont, je ne dis pas exigeantes, mais elles veulent quand même une qualité de vie. Par exemple, l'aménagement des trottoirs ne se fait pas toujours avec du goudron. On fait attention, il y a des normes. Ça devient quand même compliqué. Être maire, ça demande aussi beaucoup de travail. On n'imagine pas toutes les paperasseries qu'il faut faire.
Oui, ça c'est vrai que la paperasserie, elle est énorme. On ne va pas à la vitesse qu'on veut. On est tenu par tous ces problèmes administratifs. Et ça, c'est un peu dommage.
Vous avez aussi une vie professionnelle, ou peut-être êtes-vous retraité, je ne sais pas, monsieur Morel, mais il y a beaucoup de maires aussi qui trouvent qu'il y a quand même beaucoup de travail, beaucoup plus qu'on ne le pense, quand on est maire d'une commune.
Disons que moi, je suis actif, je travaille dans une entreprise. Hein, et c'est vrai que la fonction de maire est très prenante, donc il faut arriver à jongler entre le travail, la mairie, puis la vie.
Mais on peut vous déranger, je dis pas à n'importe quel moment, mais c'est vrai que il y a des personnes qui vous interpellent. De toute façon, vous connaissez tout le monde à Courlandon.
Je connais à peu près tout le monde, oui. Je suis pas natif de Courlandon, donc j'ai des fois des gens que je connais pas vraiment bien. Après, c'est vrai qu'aussi, on m'appelle des fois des heures un peu bizarres, quoi.
Et puis, parfois, pour des questions de voisinage, pour des choses... mais il faut bien un interlocuteur, et le maire est l'interlocuteur. C'est à lui qu'on s'adresse, parce que sinon, on se dit, à qui vais-je demander ?
Le problème, c'est que le maire, il doit savoir tout faire. Il doit tout connaître. Et ben, souvent, il n'a pas la réponse à certains problèmes. Et les gens veulent la réponse tout de suite.
Et vous avez, avec un peu l'habitude, l'occasion de leur dire, bah, écoutez, je vais aller voir, je vais me renseigner. Vous êtes aidé en cela par le Grand Reims. Il y avait des questions techniques, je pense aux aménagements, aux voiries, etc.
Pour l'aménagement, donc comme le Grand Reims gère toute la voirie, on leur délègue tous ces travaux. Pour la départementale qu'on doit refaire, par exemple, on s'appuie un peu sur le Grand Reims, mais surtout sur des maîtres d'œuvre.
Et donc, vous êtes obligé de suivre ça tous les jours, quotidiennement. Enfin, ça veut dire aussi qu'il y a aussi une vie familiale aussi. Ben, si vous avez des occupations, évidemment, vous pouvez être dérangé, on l'a dit tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment, c'est le premier élu. C'est l'homme politique, comme on dit, entre guillemets, qu'on voit le premier, c'est lui qu'on interpelle, quoi.
Oui, c'est un peu le chef de famille, quoi, qui doit tout savoir et savoir tout faire.
Ouais. Il est aussi le confident, parfois, de gens qui viennent vous dire, voilà, est-ce que vous ne pouvez pas arranger telle ou telle chose, mais vous ne pouvez pas, enfin, je veux dire, mais vous êtes aussi tenu à de la discrétion.
Oui, bien sûr, parce qu'on nous raconte aussi, les histoires qui remontent assez loin, d'ailleurs, et bon, bah, il faut qu'on fasse avec...
Faut arrondir les angles.
Toutes ces victoires qui sont des fois un peu à l'opposé l'une de l'autre, quoi.
Alors, évidemment, on aura l'occasion de vous retrouver, monsieur le maire, Courlandon, à quelques kilomètres de Fismes, pas très loin de Reims. Donc, combien de kilomètres de Reims, Courlandon, finalement ? 25 ?
On est à peu près à 25 kilomètres, hein, par la Nationale 31. Ça va assez bien pour venir à Reims, donc on n'est pas...
Et puis, c'est ce que souvent des maires nous disent, quand on vient à la campagne, il faut vivre comme des gens à la campagne. Il faut avoir des aliments d'avance, on ne fait pas ses courses quand même, on ne sort pas à la boulangerie en descendant en bas, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Mais enfin, bon, est-ce que vous êtes un maire heureux, on peut dire, Patrice Morel ?
Bah, je suis heureux parce que j'ai arrivé à faire des choses. Après, ça a été très très dur de se mettre dans le bain parce que la fonction de maire est assez dure, il faut connaître beaucoup de choses.
En tout cas, merci Patrice Morel d'avoir été avec nous. Vous êtes maire de Courlandon. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver de temps en temps sur l'antenne. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci, au revoir.
Et on a pris le TGV. On a pris un petit peu d'avance par rapport au journal régional que l'on lance tout de même maintenant avec Fabrice Gironet à la mise en onde ce vendredi. Les titres de ce vendredi 10 mai, 27e édition des fêtes médiévales de Sedan, ce week-end, un rendez-vous incontournable pour tous les Sedanais, mais bien plus encore, présentation. Les élèves du lycée Georges Brière de Reims et du lycée Ozanam de Châlons-en-Champagne ont confectionné 4 drapeaux inspirés du style et de la passion pour le jazz du dessinateur chalonnais Cabu Découverte.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Ce week-end, c'est le rendez-vous incontournable de l'année qui se tient à Sedan, les fêtes médiévales. Cette édition 2024 s'annonce plus spéciale que jamais, puisque l'on fête les 600 ans du château fort. De plus, il y a quelques mois, l'enceinte a été élue monument préféré des Français. Mélène Dumerle, directeur du château fort de Sedan, en a conscience. La programmation se devait d'être à la hauteur de l'événement.
Alors c'est une année avec une programmation revue considérablement à la hausse. On a beaucoup plus de compagnies, beaucoup plus d'animations de prévues, en particulier d'animations musicales. Mais la vraie nouveauté cette année, c'est le retour des chevaliers, le retour du tournoi de chevalerie, qui en plus cette année aura lieu dans l'espace des tournois, et donc ça sera un spectacle assis sur des gradins avec 600 places, ce qui nous oblige un petit peu à prévoir un petit supplément. Donc c'est un supplément de 3 euros en prévente pour assister à ce tournoi qui s'annonce exceptionnel. Ça nous permet également de gérer les flux, puisqu'on le sait, parfois il y a aussi un peu trop de monde sur ce périmètre et on pense que cela va régler ce problème. Ça, c'est la première grande nouveauté, c'est donc le retour des chevaliers. Deuxième nouveauté, c'est les fauconniers, puisque on nous l'avait réclamé à plusieurs reprises. Ça manquait aussi de spectacles de rapaces, et donc là, on a fait venir une compagnie très réputée qui vient de l'ouest de la France, qui s'appelle Vol en Seine, et qui va venir enchanter petits et grands sur le bastion du gouverneur. Ce bastion qui a été entièrement rénové, si on peut dire. En tout cas, la végétation a été tellement bien nettoyée qu'on redécouvre ce bel édifice. Et donc, on va utiliser cette espèce de carrière naturelle pour faire voler les oiseaux. Et enfin, les autres animations, il y en a beaucoup, vous regarderez dans le programme, mais comme je le disais, plus d'animations musicales. Et petit bonus, cette année, comme c'est la fête du feu, on a fait venir un vrai dragon. Un dragon de 2 par 4 mètres, donc très impressionnant, qui lui-même va cracher du feu.
Le thème cette année, la fête du feu, de nombreuses animations répondront à cette promesse. Et quand on regarde dans le rétroviseur avec le maire de la ville, Didier Herbillon, c'est une véritable prouesse d'en être là aujourd'hui pour cet événement dont il avait été à l'initiative en 1996.
Ce festival, il a été créé par les Senalais il y a maintenant près de 30 ans. C'était une idée que j'avais lancée comme ça. Et puis ça a fonctionné parce qu'on a créé tout de suite un comité d'organisation qui était composé d'une douzaine de personnes. Certaines d'ailleurs sont encore là aujourd'hui et qui ont lancé les opérations. Et dès la première édition, ça a été un succès. On avait accueilli à l'époque 10 000 visiteurs, ce qui était assez inespéré. Et c'était en plein centre-ville. Les temps ont un peu changé, la configuration aussi. Mais aujourd'hui, ce festival, il appartient toujours aux Senalais, c'est le leur. Il y a des dizaines et des dizaines de bénévoles qui y prennent en charge, y compris d'ailleurs le comité d'organisation. Et puis, le succès est toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est le plus important. Ça permet de montrer évidemment notre château fort à des milliers de gens qui ne sont pas forcément des Senalais. On a énormément de touristes à cette occasion. Ça permet aussi de renforcer la notoriété du château et de la ville. Là encore, c'est un enjeu majeur. Ça permet aussi de faire bouillir la marmite d'un certain nombre de nos commerçants. Et oui, ils sont nombreux d'ailleurs sur le festival même, mais aussi évidemment l'hôtellerie, la restauration, etc. Tout ça, c'est une très belle opération et ça fait partie de l'ADN de la ville. J'allais même dire tout à l'heure de la sociologie de la ville. C'est un petit peu exagéré sans doute, mais en tout état de cause, c'est un festival remarqué et remarquable.
Des propos recueillis au micro de RCF France-Ardenne, les fêtes médiévales de Sedan se tiennent ce samedi et ce dimanche, donc entrée gratuite. Les BTS Communication de Saint-Michel à Reims organisent ce samedi et ce dimanche également, de 10h à 18h à l'Hippodrome de Reims, un marché artisanal regroupant une trentaine d'artistes de passions et métiers différents. L'objectif de ce marché est de permettre aux artisans locaux de se faire connaître et d'élargir leur clientèle, bijoux, tailleurs, verriers, il y en aura pour tous les goûts. L'entrée est gratuite. À ne pas manquer ce samedi à partir de 20h, la nuit des cathédrales Notre-Dame de Reims ouvre ses portes avec le concours de l'association des Amis de la cathédrale. Une soirée que l'on vous présentera demain samedi dans le magazine du week-end à 11h et à 17h avec Bernadette Dubois, vice-présidente de l'association, et Claire Vial, responsable de la mission Activité. On peut déjà vous dire qu'il y aura la possibilité de visiter la crypte et de participer à deux concert exceptionnel, celui de Vocal Harmonies et de Ars Vocalis. Dans le cadre du projet Diagonal Euro sur les traces de Cabu et Cab Calloway à travers les métiers d'art de la région Grand Est, les élèves du lycée Georges Brière de Reims et du lycée Frédéric Ozanam de Châlons-en-Champagne ont confectionné 4 drapeaux inspirés du style et de la passion pour le jazz du dessinateur chalonnais Cabu. Capucine Plossourin, enseignante atelier couture au lycée Frédéric Ozanam, nous présente la naissance et l'objectif de ce projet.
On s'est rencontrés avec le lycée Brière l'année dernière à la Villa Médicis et on s'est très bien entendu avec toute l'équipe et on a souhaité retravailler ensemble cette année. Donc on a rencontré lors de l'exposition Villa Médicis à Strasbourg Joseph Perry qui nous a parlé de la Diagonale Euro. C'est faire découvrir les savoir-faire et puis partager les savoir-faire avec un autre lycée, en fait travailler en commun. On travaille avec la section CVPM, donc c'est la communication visuelle, qui sont venus faire des dessins en s'inspirant des dessins de Cabu. Et nos élèves en couture d'ameublement sont venus appliquer des étoffes d'éditeurs assez connus en France et européens, ainsi que des éditeurs de passementerie pour venir colorer les drapeaux.
Les œuvres conçues par les lycéens de Châlons et de Reims ont été présentées à la Dudujothèque lundi dernier, un moment exceptionnel et émouvant pour Marie, étudiante au lycée Frédéric Ozanam.
C'est un peu émouvant parce que c'est un lycée qui a fait un bout du projet et nous on l'a fignolé, on va dire, avec les tissus, les étoffes. Donc je suis contente pour ça.
Les quatre drapeaux ont été exposés au village européen de Strasbourg ce jeudi 9 mai. Auparavant, les lycéens ont pédalé à vélo de Châlons-en-Champagne à la capitale européenne pour symboliser l'engagement citoyen et culturel des jeunes apprenant en métier d'art. Sport, basket, avant-dernier match de la saison pour les Flammes Carolo ce soir en Ligue féminine. Elles se déplacent à 20h sur le parquet de Roche-Vendée. En Pro B, c'est la dernière journée de la saison régulière ce soir. Chalon-Reims est en déplacement à Rouen à 20h également. Une victoire des Champenois leur permettrait de chipper la 5e place à leur adversaire du soir. Ils sont, quoi qu'il en soit, assurés de finir au plus bas 6e du championnat et de participer au play-off. Tous nos clubs locaux, ou presque, jouent ce soir, puisqu'en football, il y a de la Ligue 1. Reims est en déplacement sur la pelouse de Brest pour la 33e journée à 21h. En Ligue 2, Troyes se déplace à Laval à 20h45 pour la 37e journée. Les Troyens sont d'ores et déjà condamnés à la descente en nationale. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Dans quelques minutes, on donnera des nouvelles de nos diocèses avec notamment Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, avec également les jeunes pèlerins du diocèse de Châlons qui se sont rendus à Lourdes du 22 au 27 avril dernier. Mais pour le moment, parlons histoire et notamment de la première bataille de la Marne dans ce magazine régional. C'est avec Christopher Fausten et son invité Olivier Dufour.
Dans le cadre du 110e anniversaire de la première bataille de la Marne, la commune de Mondement, Montgivroux, met en place une série d'événements qui couvrent l'année 2024 en partenariat avec plusieurs communes et plusieurs associations locales, régionales ou étrangères. Bonjour Olivier Dufour.
Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous, vous êtes maire de Mondement. On va s'intéresser avec vous donc pendant quelques minutes sur ce 110e anniversaire de la première bataille de la Marne. Mais avant cela, présentez-vous et présentez-nous cette petite commune qui est proche de Cézanne.
Alors, je suis Olivier Dufour, maire depuis 2020, donc primo maire de la petite commune de Mondement-Montgivroux, située à 10 minutes de Cézanne dans le sud-ouest marnais. Un petit village qui compte 29 habitants, composé de vignes, de bois et qui a été le théâtre de combat durant la première bataille de la Marne, d'où la commémoration sur toute l'année.
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, et puis j'imagine d'autres personnes qui vous entourent, à organiser plusieurs rendez-vous cette année ?
Alors là, dans le cadre du centenaire en 2014, nous avions reçu le Premier ministre Valls pour le centenaire et donc les 110 ans, c'était l'occasion pour nous aussi de nous rappeler du sacrifice de nos anciens. Et plus qu'une cérémonie
commémorative,
on a voulu vraiment s'appuyer sur toute une année pour vraiment faire rythmer le village en souvenir de nos anciens. C'est un beau projet qu'on mène en partenariat avec trois associations locales du Cézanais et cinq communes partenaires du bassin des Marais de Saint-Gond. Et donc nous avions voulu impliquer les communes alentours justement à ce souvenir.
Alors six grands rendez-vous à ne pas manquer cette année 2024, Olivier Dufour, notamment ce 18 mai, c'est la toute première date proche, on peut le dire, avec la Nuit des Musées.
Tout à fait, donc deuxième édition de la Nuit des Musées, nous avions commencé l'année dernière en 2023 avec un beau succès, 70 personnes qui étaient présentes l'année dernière. Donc une visite originale dès la nuit tombée, on part visiter le site de Mondement avec les abords du château, le monument de la première bataille de la Marne, l'église de Mondement classée au monument historique et tout récemment au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et on termine par une petite visite du musée avec la dégustation du gâteau du Poilu.
Alors les week-ends du 29 et 30 juin, Olivier Dufour, il y aura cette marche commémorative. On en parlera dans quelques instants parce que j'ai envie de dire le meilleur pour la fin. On va s'intéresser tout d'abord au 6 juillet avec ce samedi de la découverte.
Oui, le samedi de la découverte organisé avec l'office de tourisme de Montmirail et sa région. Donc c'est la communauté de communes qui est toute voisine. Et c'est l'occasion justement pour les Montmirailliers et Montmiraillaises de venir découvrir le monument de la première bataille de la Marne dans le cadre d'une visite commentée et d'une petite dégustation de produits locaux à la fin.
Le 14 septembre aura lieu une exposition et conférence musicale.
Oui, une semaine après la cérémonie commémorative des 110 ans de la première première bataille de la Marne de l'association Mondement 14. Donc nous menons une exposition et conférence musicale dans la commune voisine de Soisy-aux-Bois en souvenir de l'ancien président de l'association Mondement 14 qui nous a quitté récemment. Et donc c'était une belle occasion de lui rendre hommage avec cette exposition de l'association locale Chante Morin qui permet de, par le biais de tableaux et d'une petite conférence musicale animée par Yvan-Claude Perret, animateur oui. France Bleu et France Musique.
D'accord.
Donc de parler de la chanson pendant la Grande Guerre et de l'animer par un mini-concert de Jean Dubois en solo guitare avec des chansons de Poilu. Nous avons souhaité justement la faire bouger au travers de nos communes voisines pour que tous les habitants du bassin des marais de Saint-Gond puissent en bénéficier. Donc elle sera itinérante à raison d'une après-midi par village avant de revenir le 21 et 22 septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine dans la commune de Soisy-aux-Bois.
21, 22 septembre, on le disait, oui, les Journées européennes du patrimoine, c'est un rendez-vous incontournable à ne pas manquer, et ce sera le cas du côté de votre commune à Mondement-Vangivron.
Oui, tout à fait. Donc deux jours, deux visites guidées par après-midi. Pour cette année, nous avons voulu également mettre un partenariat avec la commune de Meurverdet, qui a une très belle église avec une immense fresque à 5 minutes de Cézanne à découvrir absolument. Et donc on a noué aussi un petit partenariat. Donc les visiteurs qui iront à Meur viendront à Mondement, et les visiteurs de Mondement pourront aller à Meurverdet.
Olivier Dufour, on termine avec ce rendez-vous qu'on a reporté, si j'ai envie de dire, mais elle aura lieu les 29 et 30 juin prochains avec ce bivouac de Poilu et cette marche commémorative.
Oui, le grand rendez-vous, donc samedi 29 et dimanche 30 juin, donc avec 10 associations de reconstitution historique françaises et allemandes, plus de 70 reconstitueurs qui seront présents derrière la mairie. Donc au programme, une marche mémorielle vers Oie, où la réserve de l'armée allemande était positionnée lors des combats de Mondement. Un bivouac ouvert au public et le soir un repas à la roulante. Donc la roulante, c'est une cuisine de campagne itinérante pour les campements temporaires, ouvert au public sur réservation. Le lendemain matin, nous ferons une petite cérémonie au pied du monument avec les 70 reconstituteurs, donc ce sera quand même une belle photo. Une nouvelle ouverture du bivouac au public jusqu'à midi.
Infos et inscriptions par mail, par téléphone?
Par mail à olivier.dufour3@orange.fr. Le numéro de téléphone seront disponibles sur la page Facebook de la commune de Mondement-Montgivroux.
D'accord.
On compte sur les offices de tourisme de Montmirail et de Cézanne et sa région pour faire le plus grand tapage de ces événements. Voilà.
Une année pour commémorer la première bataille de la Marne du côté de Mondement-Montgivroux. Merci monsieur le maire Olivier Dufour d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF et on invite à ce premier rendez-vous de l'année. Ce sera le 18 mai avec ses nuits des musées. À très bientôt.
Merci à vous.
Merci Olivier Dufour et Christopher Fausten depuis les studios de RCF à Châlons-en-Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
En alternance, tous les 15 jours, le vendredi, on retrouve Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, avec son auxiliaire, Mgr Étienne Véteux, qui est avec nous ce vendredi pour la chronique Parole d'évêque. Mgr, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous et à toutes.
Une semaine particulière évidemment avec la fête de l'Ascension, c'était hier, c'est toujours un moment marquant du calendrier chrétien, j'allais dire Mgr Étienne Véteux.
C'est une très très belle fête, c'est une fête dans le temps pascal qui nous fait passer une étape entre Pâques et puis la Pentecôte, le moment où on célèbre la montée du Christ au ciel. Alors on peut se demander quel sens ça a pour nous, mais en fait c'est le Christ qui nous ouvre la voie au ciel, qui nous rappelle que même si ce qu'on vit ici-bas est vraiment très important et construit la vie éternelle, si on regarde vraiment les choses, 99% de notre existence, alors en fait on ne peut même pas vraiment calculer, mais la part la plus immense de notre existence aura lieu dans la vie éternelle. Et il est bon comme un enfant qui vit dans le sein de sa mère pour quelques mois, mais qui en fait vit ses mois comme une préparation pour toute sa vie, que nous ici, nous nous rappelions que notre vie ici est une préparation pour quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand.
C'est un temps que vous avez vécu en diocèse, c'est important, Mgr Étienne Véteux, justement de s'inscrire dans le diocèse de Reims et des Ardennes et de partager ces moments-là avec les diocésains.
Alors j'ai eu la chance de pouvoir revivre cela au Haut-Butet, au sanctuaire des Haut-Butet, donc dans les Ardennes. C'était très beau de pouvoir le vivre dans ce sanctuaire. Vous savez, il y a trois sanctuaires dans le diocèse qui travaillent ensemble, les Haut-Butet, Neuvisy, qui est aussi dans les Ardennes, et Saint-Remy dans Reims. Et en fait, on voit le retour en force des sanctuaires dans la vie chrétienne et dans la vie du diocèse. Peut-être qu'il y a moins de gens qui vont régulièrement à la messe, le dimanche, mais des lieux comme ça, des lieux forts, attirent et permettent des expériences spirituelles fortes. Et je crois que ça fait partie aussi de l'avenir du diocèse que de pouvoir soigner ces trois lieux importants.
Vous parliez des Ardennes, Monseigneur Étienne Véteux, où vous étiez hier, vous y étiez une bonne partie de la semaine, puisque mardi notamment, c'était du côté de Aubigny-les-Potées, à la Fontaine Olive, il y avait le journée de la vie consacrée pour les religieuses des Ardennes.
De fait, la Fontaine Olive, donc, c'est un carmel, et il y a tous les ans une rencontre de tous les religieux, religieuses et consacrés du diocèse qui se fait tous en commun, et puis ensuite il y a une rencontre, plutôt au printemps, d'une part à Reims, en fait là c'était en février, à Reims, pour ceux de la partie sud du diocèse, et puis pour celles des Ardennes, à la Fontaine Olive. C'est intéressant de savoir qu'il y a quand même dans notre diocèse 18 communautés religieuses, 4 contemplatives, cisterciennes à Igny, le Carmel à la Fontaine Olive, les Clarisses à Courmontreuil, et puis les Bénédictines à Saint-Thierry, et puis 14 apostoliques. Et même si parfois ce sont des petites communautés, je pense qu'elles sont essentielles dans la vie du diocèse. C'est comme un poumon, une respiration par laquelle l'Esprit Saint peut passer. Et puis les personnes qui sont proches de ces communautés les aiment énormément. On sent un véritable rayonnement.
Et c'est très important, on imagine, Monseigneur Étienne Véteux aussi, d'aller à la rencontre de ces communautés là où elles vivent, même si on parle du diocèse de Reims et des Ardennes, plutôt que de toujours faire venir tout le monde à Reims et aux alentours. C'est très important d'aller voir comment elles vivent en communauté, dans leur département. Finalement, ça correspond aussi à cette démarche missionnaire de l'Église aujourd'hui.
Tout à fait. Et puis, bon, il s'agit effectivement pas simplement de faire venir à soi, mais d'aller vers, comme le disait mon prédécesseur, le Mgr Bruno Feuillet, il s'agit de passer d'une pastorale de la cloche où on fait venir les gens chez nous à une pastorale de la sonnette où on va vers les gens. Et puis en plus, c'est vrai que les Ardennes ont une réalité propre, ont des situations propres et puis une force propre et il est bon de pouvoir l'accueillir.
Monseigneur Étienne Véteux, dans ce numéro de Parole d'évêque ce vendredi, on regarde avec vous un petit peu toute l'actualité. Il y a également eu des beaux rendez-vous pour les prêtres de nos diocèses, notamment une rencontre pour le père Michael Dupont, la rencontre des curés de paroisse pour la synodalité à Rome du 29 avril au 2 mai. De quoi s'agit-il ce rendez-vous ?
Alors, je suis effectivement frappé du fait que les prêtres du diocèse sont très dévoués dans leur ministère, très donnés dans leur charge, mais qu'ils ont souvent un horizon plus large. Et il y a eu à Rome une rencontre dans le cadre de la préparation de la deuxième étape du synode sur la synodalité que le pape François organise. Donc ce synode qui veut travailler sur une église en chemin où tous sont parties prenantes. Et du 29 avril au 2 mai, il y a eu une rencontre spécifique pour les curés du monde entier. Alors il y a eu 200 curés de à peu près 9900 pays, dont 4 Français, et un des Français était le père Michael Dupont, donc de Tardenois-Vel. Il en est revenu enchanté. Ce que lui retient, c'est que les paroisses mêmes peuvent être synodales. Il ne s'agit pas simplement que l'Église tout entière soit synodale, mais que les paroisses soient synodales, c'est-à-dire qu'elles soient des communautés de communautés où tous sont parties prenantes. Et il me disait, en en parlant, qu'il était frappé du fait que, du coup, la synodalité n'est pas simplement une sorte de cuisine interne de l'Église qui essaye de s'organiser le mieux possible, elle a aussi une dimension missionnaire, c'est-à-dire le témoignage du fait que tous sont partie prenante donne de la crédibilité, peut être un véritable témoignage pour le monde. Il faudrait interroger directement le père Michael.
J'allais dire, ça doit être une fierté, mais ayons un petit peu d'orgueil, c'est plutôt une richesse finalement pour le diocèse que d'avoir eu un prêtre qui a pu participer à cette rencontre avec d'autres prêtres pour à la fois donner la vision que l'on a ici, nous, dans le diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi recevoir la vision qu'ont d'autres prêtres à travers le monde.
Oh, je peux dire que nous en sommes fiers, et nous sommes fiers aussi de la réaction des autres curés partout quand ils entendent dire ce qui se passe dans le diocèse de Reims, mais effectivement, surtout, c'est un moment d'écoute et d'apprentissage et d'enrichissement mutuel.
Nos prêtres qui sont sur tous les terrains, notamment on pense également au père Claude Soudan qui a participé au championnat national de vélo pour le clergé, c'était le 1er mai en Camargue.
Et alors depuis quelques années, il y a un championnat national de vélo pour le clergé et simultanément championnat national de vélo pour les femmes consacrées. Cette année, il y a eu 56 coureurs, 54 hommes, évêques, diacres, religieux, séminaristes. Il y a parfois des pasteurs protestants, je ne sais pas s'il y en a eu cette année. Et puis il y a eu 2 femmes consacrées. Et puis nous sommes fiers, Claude Soudan y ait participé. L'idée derrière, c'est que dans le sport et la foi, il y a des valeurs communes. La valeur de la persévérance, la valeur du don de soi. En même temps, il faut savoir que le sport a aussi besoin d'être évangélisé. Monseigneur Tristan Delarbre, qui est celui qui a célébré la messe inaugurale de ce championnat, a insisté sur le fait que, bien sûr, tout le monde voulait gagner, gagner la couronne, comme dit saint Paul, mais il a posé une question qui était intéressante. Il a dit, si un autre coureur tombe à côté de vous, vous arrêterez-vous pour le relever? Et je pense que ces deux messages sont bons à entendre. Courir, persévérer, essayer de donner le meilleur de soi-même, mais sans jamais oublier le service de l'autre et d'aider celui qui tombe.
Donner le meilleur de soi dans le sport comme dans la foi. Monseigneur Étienne Véteux, il va être l'heure de se quitter ce vendredi. Avant cela, quelques rendez-vous pour ce week-end avec les confirmations. Ça sera notamment le week-end prochain, mais dès ce week-end, il y a quelques rendez-vous malgré tout.
Et effectivement, à FIM le 12, dimanche, il y aura des confirmations. Et puis ça enclenchera toute une série de confirmations à la fois de jeunes et d'adultes, notamment pendant le week-end de la Pentecôte. C'est extraordinaire de voir des personnes qui décident, c'est le moment de la décision adulte ou quasi-adulte de la foi. C'est magnifique de voir que tant de personnes disent oui au Christ de manière adulte et mûre.
Eh bien, un grand merci, Monseigneur Étienne Véteux, d'avoir été avec nous dans ce numéro de Parole d'évêque. À très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Des nouvelles du diocèse de Chalon pour terminer ce magazine régional ce vendredi et cette semaine. Le pèlerinage diocésain à Lourdes s'est tenu du 22 au 27 avril. Un beau rassemblement avec plus de 300 pèlerins réunis, dont de nombreux jeunes. Christopher Fausten.
Et pour nous en parler, nous avons la chance de recevoir trois jeunes confirmants dans le studio de RCF Cœur de Champagne, Nicolas, Gwendoline et Augustin. Bonjour.
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 Merci d'être avec nous, accompagné de la responsable de la pastorale des jeunes du diocèse de Chalon, Nadège Bonne. Bonjour.
Bonjour Christopher.
Alors avant des témoignages des différents jeunes confirmants qui ont participé à ce dernier pèlerinage diocésain à Lourdes, un petit retour sur cette organisation parce qu'il y avait quand même eu du monde, plus de 350 pèlerins, dont de nombreux jeunes qui ont participé à cette...
Voilà, tout à fait. Il y avait 60 jeunes qui participaient au pèlerinage diocésain, dont 14 lycéens qui étaient au service des pèlerins, qui sont mis au service des pèlerins malades pendant tout le pèlerinage. Ils ont aidé au brancardage, ils les ont accompagnés dans le sanctuaire, ils ont fait des animations à Saint-Fré, là où sont logés les pèlerins malades. Ils ont aidé les hospitaliers. Et puis, donc, le reste du groupe, des jeunes de tout le diocèse, confirmant ou pas, des jeunes qui venaient pour la première fois, d'autres qui sont des habitués depuis plusieurs années.
Alors, les jeunes que nous avons au studio, c'était leur première participation. On va les écouter dans quelques instants. Un petit retour général sur cette organisation. Nadège Bonne, tout s'est bien passé?
Oui, tout s'est bien passé. Pas de malades, pas de grands malades parmi les jeunes. Voilà, et puis un bon esprit et tout le monde s'est vraiment mis dans une démarche de pèlerinage pendant toute la semaine.
Nicolas, oui. Présente-toi, quel âge as-tu et raconte-nous un petit peu ton aventure, ton pèlerinage du côté de Lourdes.
Bah du coup, moi je m'appelle Nicolas Sausson, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Du coup, c'est la première fois que je viens à Lourdes et ça a été une expérience très enrichissante. C'est une ville qui est vraiment axée sur la foi catholique et où on peut vraiment se plonger dedans.
Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce pèlerinage?
Lourdes, c'est vraiment une très jolie ville. Et en plus, cette année, étant donné que je suis confirmant, il y a une réduction de 100 euros. Donc bah, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'y aller.
Donc première participation, tout s'est bien passé pour toi. Qu'est-ce que tu retiens de ce pèlerinage?
Bah, je retiens qu'il y avait une vraie cohésion à l'intérieur du groupe, entre les jeunes et les animateurs.
Et donc, tu as pu aussi rencontrer d'autres jeunes, faire de nouvelles rencontres. Tout s'est bien passé pour toi?
Oui, aucun problème.
Alors, avec nous également, Gwendoline, c'est également sa première participation à ce pèlerinage à Lourdes avec ses 60 jeunes que nous venons de présenter avec Nadège Bonne. Tout s'est bien passé pour toi aussi, Gwendoline?
Moi, c'était vraiment très très bien.
Qu'est-ce que tu retiens de ce pèlerinage?
Bah, c'est une très très belle ville et... C'est rare de voir une ville complètement accessible en fauteuil roulant.
C'est vrai?
Oui.
Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le programme que vous avez eu durant cette semaine?
Alors, mardi, on a eu la messe d'entrée à la basilique.
D'accord.
Notre-Dame du Rosaire, avec du coup tout le diocèse de Chalon. C'était une très belle rencontre. Le mardi, on a vu une petite vidéo avec les jeunes sur la vie de Bernadette et le sanctuaire. Le mercredi, on a eu la messe internationale.
D'accord, oui.
Donc, qui était vraiment très très belle et assez impressionnante aussi.
Et puis, il y a eu aussi des moments de rassemblement avec d'autres jeunes, d'autres diocèses, Nadège Bonnet.
Oui, alors tout à fait. Le jeudi, le service jeune du sanctuaire de Lourdes propose une veillée de louanges, adoration, confession, et ouverte aux différents groupes qui sont présents sur le sanctuaire. Et donc, nous, les jeunes du diocèse, on rejoint les jeunes de Nantes, la soirée ensemble, les prêtres se mettent à la disposition des jeunes pour les confesser. Ou pour les écouter, pour échanger avec eux.
Ça s'est bien passé pour toi, là, donc cette aventure. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre également? Même question que Nicolas, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce pèlerinage?
Lourdes, moi je la connais depuis que je suis toute petite. Avec ma mère, elle m'a essayé de faire découvrir par des petits films montrant la vie de Bernadette. Et ça me donnait envie d'y aller pour voir.
Alors vous êtes tous les trois de Châlons-Champagne. D'où venez-vous? On va commencer par Nicolas.
Moi je viens de Châlons-Champagne.
Châlons-Champagne, Gwendoline?
Châlons aussi.
Et pareil pour
moi, Saint-Mémy à côté.
Saint-Mémy, bon, ça y est, c'est l'agglomération de Châlons-Champagne. Alors justement, Augustin, on revient vers toi également pour nous partager un petit peu ton aventure, ton premier pèlerinage à Lourdes. Comment ça s'est passé?
Bah, c'est super bien passé. Des nouvelles rencontres avec d'autres jeunes qui étaient du coup avec moi. Aussi des nouvelles personnes, par exemple les accompagnateurs, qu'il y a des gens que je connaissais pas du tout. Et puis le pèlerinage, impressionnant, parce que de voir autant de jeunes qui croient dans la même foi, ça redonne envie un peu. Ça
donne confiance.
Oui, voilà.
Ça donne confiance. Et puis j'imagine que pour vous, peut-être par la suite, quand on évoque le mot JMJ, on se dit c'est un petit JMJ que j'ai vécu en quelque sorte du côté de Lourdes. Et c'est peut-être une motivation à participer dans les prochaines éditions.
Oui.
Tu as rencontré d'autres jeunes, mais aussi d'autres pèlerins du diocèse de Chalon. Vous étiez quand même plus de 350 avec l'hospitalité du diocèse, l'ensemble des pèlerins du diocèse de Chalon. Comment s'est passée cette rencontre? C'est pareil, j'imagine que c'est aussi une fierté et être rassemblés tous ensemble avec le diocèse de Chalon à Lourdes.
Bah oui, c'est aussi pour montrer que même si on est une petite ville, un petit diocèse, que on porte bien nos couleurs et qu'on est bien là. Pour représenter notre diocèse.
Et c'est ça que tu retiendras le plus du pèlerinage, c'est le côté rencontre, rassemblement avec d'autres jeunes.
Oui.
Nadège Bonne, avant de nous quitter, on rappelle qu'il y aura d'autres pèlerinages, d'autres événements avec la pastorale des jeunes, puisque les rendez-vous ont lieu tout au long de l'année. Il y a toujours des week-ends de rencontres, il y a le week-end de rentrée, par exemple, en septembre prochain. Il ne faut pas hésiter à prendre contact auprès de la pastorale des jeunes.
Ah bien sûr, pour tous les événements, tous les jeunes du diocèse, du collège et du lycée sont invités à participer aux événements diocésains, notamment le pèlerinage à l'Épine. On invite tous les jeunes qui étaient à Lourdes, mais les autres également, à nous rejoindre pour cette marche à partir de Saint-Mémy. Et puis après-midi, les Holy Games. Cette journée sera clôturée par la messe également en diocèse. C'est souvent un retour des pèlerins à Lourdes. C'est vraiment la fête du diocèse. Donc voilà le prochain événement auquel on invite tous les jeunes.
Et puis l'actualité de la pastorale des jeunes à retrouver sur le site du diocèse de Chalon.
Sur le site du diocèse de Chalon.
chalon.catholique.fr/jeunes au pluriel pour avoir toutes les informations concernant la pastorale des jeunes et des prochains événements à venir. Merci Nicolas, merci Gwendoline, merci Augustin et merci Nadège Bonne d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui dans le studio de RCF Cœur de Champagne. On vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve j'espère très très vite pour d'autres événements, d'autres participations. Vous allez peut-être au pèlerinage à l'Épine, non? Comment ça? Non, c'est pas d'actualité?
Je sais pas.
Ah, c'est encore à confirmer. Alors, en tout cas, on vous espère nombreux du côté de l'Épine le 12 mai prochain pour ce grand pèlerinage diocésain annuel avec la présence, bien sûr, de l'administrateur diocésain, le père Denis Véjus. Merci à tous les quatre. À très bientôt.
À bientôt, Christopher.
Les images de ce dernier pèlerinage sont à retrouver sur la page Facebook du diocèse de Chalon. À noter, le pèlerinage diocésain à Lépine se tiendra ce dimanche 12 mai. Plus d'infos sur le site chalon.catholique.fr. Ainsi se referme le magazine régional. On vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. Avant cela, quelques rendez-vous à vous rappeler. Samedi, la nuit des cathédrales à partir de 20h. Les cathédrales de nos diocèses y participent, notamment Notre-Dame de Reims avec l'association des Amis de la cathédrale. Également à Sedan, et là c'est pour tous nos amis en région et même au-delà des frontières. Si vous nous écoutez via internet, les fêtes médiévales de Sedan, un très beau spectacle à venir découvrir. Donc c'est ce samedi et ce dimanche. Très bon week-end, dans quelques instants, l'information nationale.